Alors, j'ai appris que tu as étudié l'orchestration au conservatoire. Et puis, j'aimerais savoir qu'est-ce que c'est l'orchestration et à quoi ça sert.
Effectivement, j'ai étudié l'orchestration au conservatoire. Après des études de clarinette, j'ai décidé d'étudier la direction d'orchestre. Et pour bien connaître l'orchestre, il faut aussi savoir comment est-ce qu'on écrit pour un orchestre. Vous savez que le métier de chef d'orchestre consiste en grande partie dans l'analyse des partitions, l'analyse des couleurs orchestrales, qui vont permettre ensuite d'utiliser au mieux cet outil qu'est l'orchestre. Donc il est absolument nécessaire de connaître un peu les techniques d'écriture utilisées par le compositeur. Donc c'est dans ce but que les études d'orchestration existent. En tout cas, celles que j'ai suivies moi-même étaient destinées aux chefs d'orchestre principalement pour leur permettre d'acquérir certaines connaissances un peu approfondies sur l'orchestre.
Donc, tu as fait les deux types d'études en même temps, l'orchestration et chef d'orchestre.
Donc les études d'orchestration étaient nécessaires à l'obtention du diplôme
Ah,
de
d'accord.
chef d'orchestre. Ces études étaient aussi destinées aux compositeurs pour un peu les mêmes raisons. Un compositeur doit aussi connaître l'orchestre. Un compositeur est à la base violoniste, pianiste, flûtiste. Il ne peut pas connaître tous les instruments de l'orchestre. Et c'est dommage, je trouve, qu'un pianiste ne compose que pour le piano. Donc c'est pour ça que de telles études existent. On a malheureusement des exemples de grands compositeurs qui auraient peut-être bénéficié de ce genre d'études pour pouvoir réaliser leurs compositions eux-mêmes pour orchestre.
Comme.
Voilà, un exemple célèbre, c'est bien sûr Modeste Mussorgsky avec les tableaux d'une exposition. Il s'agit d'une œuvre splendide, magnifique, mais qui a été, j'imagine au départ, pensée pour grand orchestre, mais malheureusement uniquement écrite pour piano par Moussorgsky.
Mais c'est parce qu'il n'a pas pensé à l'orchestrer ou enfin il n'a pas eu le temps, il est mort entre-temps ou qu'est-ce qui s'est passé?
Non, je pense qu'il n'avait pas l'envie de passer beaucoup de temps sur cette orchestration, peut-être pas non plus les capacités de le faire aussi bien que ses contemporains. Il existe un certain nombre d'orchestrations de cette œuvre. Les mauvaises langues disent que toutes les versions sont meilleures que la version originale pour piano. La plus connue est due à Maurice Ravel, qui en a fait un chef-d'œuvre et qui a trouvé justement la façon de mettre en lumière toute la musique de Moussorgsky et a trouvé des solutions souvent assez géniales pour exprimer, pour colorer la partition de Moussorgsky. Je pense par exemple à l'utilisation du saxophone dans Le Vieux Château, qui est une trouvaille tout à fait originale. Et on ne peut plus écouter ce mouvement avec un autre instrument que le saxophone. D'autres versions existent évidemment, où l'épisode des deux juifs, le juif riche et le juif pauvre. Le juif pauvre est représenté par une petite trompette criarde qui joue dans l'aigu, peut-être pas tout à fait orthodoxe dans la façon de représenter la musique juive. D'autres orchestrateurs lui ont préféré le violon, mais la petite trompette de Ravel a une couleur tout à fait irremplaçable, à mon avis.
D'accord. Et revenons à tes études. Donc, tu as fait ces études d'orchestration. Ensuite, est-ce que tu as orchestré toi-même des pièces? Et puis, quel est l'intérêt finalement, justement, d'orchestrer une pièce qui est à la base écrite pour le piano et puis ensuite faire tout un, enfin, passer beaucoup de temps pour l'écrire pour toute une orchestre, en fait. Quel est cet intérêt?
Oui, j'ai parlé de l'exemple de Moussorgsky pour avoir un exemple d'œuvre présentée en concert. Lorsqu'on étudie l'orchestration, c'est aussi dans un but pédagogique. Il s'agit d'apprendre à manier l'orchestre, apprendre à manier les masses sonores, à les équilibrer. Donc toutes les œuvres orchestrées ne sont pas destinées à être jouées en concert. On apprend généralement en étudiant les grands maîtres classiques, en particulier Haydn. Et c'est avec lui la plupart du temps qu'on apprend à orchestrer. Donc il part d'un orchestre avec une base d'instruments à cordes, violon, alto, violoncelle, contrebasse. Et ensuite, on va y rajouter au besoin des instruments à vent, essentiellement flûte, hautbois, clarinette, basson, des cuivres, les cordes, mais avec précaution, en faisant attention à les utiliser selon leurs possibilités de l'époque, instruments plus limités qu'aujourd'hui, des cordes naturelles par exemple, il fallait faire attention aux tonalités, utiliser les instruments selon leur capacité, leurs possibilités, alors qu'aujourd'hui tout est possible, surtout si l'on écrit pour des instruments solistes, pour des virtuoses, tous les instruments peuvent pratiquement tout faire.
Ouais. Et toi, tu as orchestré quoi comme pièce, donc à part Haydn qui est la base?
Alors ensuite, on suit généralement l'histoire de la musique en orchestrant ensuite quelques compositeurs romantiques, où là, l'intérêt et l'agrandissement de l'orchestre, on a plus d'instruments, les capacités des instruments sont supérieures, on a des masses aussi très très différentes, l'orchestre, la base de cordes est aussi plus importante, on a un son plus riche, on a plus d'instruments à vent, de cuivre, les percussions se rajoutent. Une chose très très intéressante est aussi l'apprentissage de l'équilibre sonore avec un soliste. Par exemple, orchestrer des leads, par exemple des leads de Schumann, où on remplace le piano par un orchestre de chambre, un orchestre symphonique complet, et on essaye d'équilibrer de façon à avoir une patte sonore un peu plus riche que le piano, mais sans pour autant couvrir le soliste, le chanteur ou la chanteuse.
Est-ce qu'il existe, donc à part cette ébauche faite par les étudiants, est-ce qu'il existe des orchestrations de Schumann faites par des grands compositeurs?
Tu ne sais pas. Je dois dire que j'en ai aucune idée.
C'est pas grave. Bon, et à part ça, donc une fois que donc vous commencez par Haydn, ensuite c'est le romantisme, enfin le classicisme, le romantisme, vous arrivez jusqu'à quelle époque? Tu as fini à quelle
époque? Oui, bon, ça se termine en général avec la fin du XXe siècle, c'est clair, avec les compositeurs contemporains.
C'est possible.
Oui, il peut être intéressant d'orchestrer. Je sais pas, un compositeur comme Takemitsu, par exemple, peut être très intéressant. Je me souviens d'avoir justement eu l'occasion de présenter en concert une orchestration d'une œuvre pour piano. Ce qui était intéressant, c'est que chaque mouvement de l'œuvre était présenté d'abord dans sa version originale au piano, puis à l'orchestre. Peut-être aussi une autre expérience intéressante, il s'agissait d'une opérette de Chabrier, dont il manquait un air. Il s'agissait de l'opérette Le Roi malgré lui. On a retrouvé assez récemment un air de cette opérette, donc un air manquant, on pensait qu'il avait disparu dans l'incendie de l'opéra où il était entreposé. On a retrouvé chez le compositeur tout récemment cet air, mais uniquement dans sa version réduite pour piano. Puisqu'on sait que dans le cas des opéras, c'est souvent l'inverse qui se passe. On a la version complète de l'opéra, et on en réalise, le compositeur lui-même ou d'autres personnes spécialisées réalisent une réduction de la partie d'orchestre pour piano, de façon à pouvoir effectuer les répétitions avec les solistes ou avec le chœur. Donc pour cette heure, il ne nous restait que la version réduite pour piano. Donc les étudiants de la classe du conservatoire ont essayé de reconstituer un petit peu ces airs. Donc il a été très intéressant d'étudier un petit peu l'orchestration de Chabrier, qui est un compositeur qui est tout à fait intéressant, mais qui est peut-être moins étudié dans les conservatoires que d'autres. Donc il a été très intéressant de voir un petit peu sa technique d'orchestration et de voir les prouesses. Parfois, il n'avait pas peur de faire jouer en même temps qu'une soprano soliste, de faire jouer des trompettes, des trombones, toute une masse de cuivre, et cela sans couvrir la chanteuse. Donc on a essayé un petit peu de reproduire sa technique d'orchestration.
Parce que l'air en question, c'était un air pour quelle, pour une soprano.
C'est d'un air pour soprano, effectivement.
D'accord, ouais. Et puis ensuite, avec cet air que vous avez orchestré, en fait, il y avait plusieurs versions. Vous avez fait quoi, enfin...
Non, il s'agissait de trois étudiants qui se sont un petit peu partagés l'air.
Ah d'accord,
chacun
vous avez
réalisé
fait
un tiers. Non, il n'y avait pas de compétition pour ce travail où on aurait choisi la meilleure version. Non, c'était un travail collectif, mais qui était intéressant aussi de voir comment chaque étudiant avait compris la façon de chabrier, d'orchestrer, et essayer de le réaliser lui-même.
Parce que Chabrier, il date de quelle époque en fait?
Chabrier est un compositeur français qui a vécu au 19e siècle.
D'accord. Et ensuite, avec cet air réalisé par les étudiants d'orchestration, vous avez fait quoi? Donc, il y avait une représentation de cet opéra, ils ont fait quelque chose ou c'est resté au niveau étude?
Au niveau études, c'était déjà très intéressant.